Chapitre 3 Les petites amies de Madame Dérès. Madame Dérès possédait un grand nombre de petites amies. Il y avait Ondeline et Franqueline, Marie Adour, Andrinette de Tamaris, qu'avait engendré rue de la Goutte d'Or un père au demeuré inconnu. Il y avait Madame Mamoury, du grand crack d'Anderson, Mamoury and Company, qui passait pour chérir Sir Everard Dandies et son oncle, et Floris Liserolle, dont la bouche était si petite qu'il n'en aurait pu sortir un seul gros mot. Il y avait Flore, aux sourcils bleus, jeune fille d'origine cubaine, Léonore d'Asperfodoas, qui marchait sur ses 14 ans, comme sur des fleurs, et Marie-Louise Lamortagne, que Madame Dérès aimait par-dessus toutes les autres, parce que sa mère le lui avait longtemps tenu caché. Or, si cette mère encline aux austérités s'était depuis peu résolue à laisser sa fille dans une société qui l'eût autrefois honnie comme frivole, c'est peut-être que la campagne rend indulgent, ou peut-être qu'elle y avait rencontré dans la dévotion de quoi distraire son âme orageuse. L'abbé Hilary, curé de l'unique paroisse de cette singulière bourgade de Larigo, sous l'invocation des saints Pacôme et Damien, avait eu tout de suite conquérir Madame Lamortagne pour une orthodoxie douteuse, mais farouche. Il ne cultivait pas moins Madame Dérès et faisait même profession de l'admirer. Il n'était ange pour lui ni madone au prix de cette jeune femme. Florine, il est vrai, qui avait un filet de voix assez entraîné, chantait de temps en temps à l'office et y attirait du monde. Ce n'est pas que la minuscule église de Larigo, où l'on compte près de 9 000 âmes, ne fût pleine chaque dimanche à la messe de M. Hilary ou de ses deux vicaires, mais il aimait qu'elle débordât. Il ne laissait pas non plus de louer tous les soins délicats que Madame Dérès prenait de ses petites amies et de les instruire comme de les distraire. C'était à Larigo un vrai soulagement pour plus d'une mère de famille que cette aimante veuve. À la fin de mai, elle organisa au casino un bal d'enfants, de grandes enfants. On y avait aussi invité quelques collégiens, mais ils étaient timides et se tenaient mal. Deux d'entre eux même, un parent de Mademoiselle Adour et le jeune coursin d'Asperfodoas, se grisèrent au buffet. Après quoi, passant devant le vestiaire où se tenaient quelques femmes de chambre, leur timidité se dissipa soudain, et on le vit se précipiter sur cet innocent troupeau au cri sauvage de « Embrassons les bonnes !» ce qui fit un peu scandale. Aussi bien ces demoiselles ne semblaient-elles pas estimer beaucoup le supplément de distraction qu'on devait aux potaches. Elles contemplaient ceci fort méprisamment et préféraient pour la plupart danser entre elles. Ou bien, assises sur des chaises contre la muraille, elles causaient en faisant des mines. « Croirais-tu, madon, que le petit Liserolle m'a invité pour la polka ?»« Ce toupet !» disait Andrinette de Tamaris. « Et tu as refusé ?» demanda Mademoiselle Mamoury en baissant les yeux. Elle les baissait souvent, sans cause, ayant l'âme rêveuse et les cils très longs. « Refusé ? Oh, jamais de la vie !»« Ça ferait bien trop endêver cette jonquille de Flore, qui en est folle. Regarde la valser avec, si ce n'est pas pitié de porter des jupes comme ça à son âge. Elle a pleuré pour les avoir, bien sûr. » Quel âge a-t-elle donc ? 15 ans, à la Noël. Il paraît d'ailleurs que... » Et ici, Mademoiselle de Tamaris lui parla plus bas. « Ah ! » fit l'autre en rougissant. « Tu es sûre ? Oh, il y a de quoi mourir de honte. Et elle est si coquette, sa mère. Ah, c'est pour ça, bien sûr, qu'elle ne veut pas que Flore elle les reblongue. Mais regarde-moi là, regarde-moi là. On dirait qu'elle est habillée en peau de citron. » Cependant, Flore de Scarvella y Castiel Dueño valsait avec Clément Liserolle. La rapidité de leur danse semblait faire étinceler ses jambes nues sous une robe un peu courte, en effet. Tiens, ton oncle qui vient d'entrer. Il en est resté comme Baba de la robe jaune, à moins que. Et mademoiselle de Tamaris s'éclata d'un rire léger. Madon, elle, devint pâle, ses yeux brillèrent. Andriette, supplia-t-elle non sans courroux. C'est bon, ma chère. Ah, d'ailleurs, le voici. Sir Everard Dandison, qui venait d'apercevoir sa nièce, cessa tout aussitôt de s'intéresser à la danse de mademoiselle de Sauvegirard et s'avança vers Manon et son amie. Bonjour, dit-il aux jeunes filles, en leur tendant une main longue, blanche, un peu velue. Ces demoiselles ne dansent pas? Mon confesseur me l'a défendu sévèrement, répondit Andrinette en prenant un air ingénu. Et je n'aime pas danser entre femmes comme Franklin et Ondeline qui ne se quittent pas depuis 3 heures. Du reste, quand est-ce qu'elles se quittent? Elles sont cousines, n'est-ce pas? Demanda Dandison. Cousines, comme les doigts de la main. Et avec moi, reprit Sir Everard, danserez-vous, mademoiselle Andrinette? Non, pas moi aujourd'hui, mais peut-être Madon. Voulez-vous, Madon? La jeune fille qui tenait les yeux obstinément baissés ne répondit pas. On aurait pu voir palpiter son corsage. Vous avez de jolis œillets là, Madon. Voulez-vous m'en donner un? Non, vous ne voulez pas. Écoutez, si vous continuez à désobéir, je le dirai à votre maman, qui vous privera de dessert. Ou mieux, elle vous privera de la partie que j'organise avec Monsieur Lamortagne et Madame Dérèse. Quelle partie? S'écrièrent les deux jeunes filles. Ah, la langue vous revient. Eh bien, mon œillet, et je dis tout. Madon en tira deux de son corsage, jaspé, déchiqueté, et que Monsieur Dardisson sembla respirer avec délices. Alors, mon oncle? Mais Sir Everard était tout au plaisir de ce brusque parfum, de ces corolles qu'un jeune saint avait attiédies. Alors, dit-il, oh, ça sent le poivre. Ah, ben, quant au reste, voici Madame Dérèse elle-même, demandez-le lui. En effet, Florine venait vers eux avec Marie-Louise. Oh, on vous voit enfin, Dandison, fit-elle. Et d'où venez-vous, s'il vous plaît? Vous voyez, répondit-il, je suis un type dans le genre de Lothaire. I have been in Rosalind's garden, and she has given me a flower. Comprends pas, dit Florin, dont la littérature n'allait pas jusqu'à Disraeli. Mais la partie, demanda Andrinette. Eh bien voilà, c'est une promenade en barque. Clément Liserolles en sera, Flore de Savuadra aussi en robe jaune, ainsi que Léonore d'Asperfoot-Bars. Il y aura un goûter sur l'herbe, il y aura Ondeline et Franqueline. Marie Adour, ajouta mademoiselle de Tamaris. Le pique-nique fut au complet. Madame Lamortagne elle-même ayant permis que Marie-Louise y prît part. Son père en était d'ailleurs, ainsi que cet Américain de ses amis, qui, à force de vivre avec les poissons, semblait en avoir emprunté le mutisme. Tous deux, pour pêcher en paix, avaient pris les devants en canot. Car M. Lamortagne supportait mal qu'on menât tapage autour de son bouchon. Et tout le monde devait à l'heure du tiffin se retrouver dans l'île du curé, qui était le but de la promenade. Quant au reste des gens, deux larges barques, où ils étaient un peu en désordre, entassées parmi les plaies des couvertures, suffirent sans trop d'efforts à les emporter sur les eaux presque étales de la Marne. On s'était embarqué, pour éviter les curieux, un peu à la dérobée, un peu à la hâte, dans un abandon plein d'heureux improvistes. Il y avait là presque toutes les pupilles de Florinde et 3 ou 4 jeunes gens, Clément Liserolles entre autres, qui était dans la barque de Madame Dérèse à côté de Flore. Celle-ci portait une robe neuve, aussi courte toutefois, aussi jaune que par le passé, plus jaune même, d'un jaune incomparable, jaune canari ou jaune topaze, jaune soleil, jaune d'or, jaune d'œuf, qui ne saurait dire justement. Et sous cette gloire, elle laissait paraître des bas blancs à jour, qui semblaient faits de ce papier dentelle dont les confiseurs couvrent leurs dragées de baptême. Manon Mamboury, en taffetas feuilles mortes, rayées de vert, était dans la seconde barque, tout près de son oncle. Le cousin de Marie Adour, qu'on appelait Georges, et qui était amoureux de Madame Dérèse, se tenait à son côté, non loin de Florise, dont les yeux minces et verts, pareils aux feuilles de saule, l'inquiétaient un peu. La rivière fit un détour, l'arigot disparut derrière des arbres. On vogua mollement contre une rive, où il s'inclinait, au ras de l'eau, un feuillage presque noir. L'ombre diffuse fit paraître plus rose le visage des femmes. Obscurément, elles subirent le mystère de la forêt, comme elles en goûtaient la fraîcheur. Madon frissonna comme si une main subite et froide s'était posée au creux de sa nuque. L'île du curé apparut enfin sous la haute chevelure des platanes et des tilleuls. Les barques s'arrêtèrent dans une anse vaseuse, où des cailloux, çà et là posés, aidaient mal à gagner le rivage. Florine, en s'aidant d'une canne, passa pourtant. Une dame qui l'accompagnait fit de même. Les autres eurent peur, sans doute, et se laissèrent porter. Clément Lisolle, qui avait des guêtres, se mit résolument à l'eau, dont il n'avait que jusque-là mijaret, et s'empara de Mademoiselle Saavedra. Par jalousie, il la portait en la tournant vers la terre, et Madame Dérèse fut seule, peut-être, à voir ses jambes suspendues entre les ruches de la robe comme deux pistils au fond d'une tulipe d'or. Mais, plus haut, secrète flore, un peu de rose souriait. Georges, lui, s'était chargé de la petite Lisolle, qui, Dieu sait par quel caprice, se mit en cours de route à se tordre comme une anguille en poussant de ses cris en pointe dont sa bouche menue avait le secret. On vit s'agiter soudain quelque chose de rouge et de noir, une torsade de cheveux sombres déroulée, des yeux brillants de colère. « Mais laissez-moi, laissez-moi » criait-elle, « vous me serrez !» « Georges, mon ami, laissez-la, elle tombera dans l'eau !» conseilla au jeune homme, qui heureusement n'en fit rien, Sir Everard d'Anderson. Lui-même, c'était sa nièce dont il s'était chargé, ainsi que d'une enfant. Et Madon, dans l'extase, avait fermé les yeux comme pour emprisonner l'image de son bonheur. Mais par crainte sans doute qu'elle ne tombât, il la tenait si pressée que le taffetas de la jupe en criait sous ses ongles. Enfin, tout le monde étant débarqué, on se mit en quête d'une place propice. Elle se rencontra bientôt à la lisière d'une prairie sous des tilleuls en fleurs. L'herbe était molle, et quelques bouteilles de tisane eurent vite fait de troubler ses jeunes têtes. Car on n'avait pas attendu pour attaquer les paniers que M. Lamortagne ni son compagnon parussent. Mais au dessert, leur absence commença à le surprendre. Marie-Louise démarquait un peu d'inquiétude. « Mais qu'est-ce qu'il fait donc, papa ?» soupirait-elle. Et Madame Dérèse l'embrassait pour qu'elle restât calme. Oh, « Je m'en vais y aller voir, » dit Sir Everard, qui se dirigea du côté de la rivière. Mais au bout de peu de chemin, il entendit, peut-être sans grande surprise, un froufrou qui le poursuivait. C'était Madon. Un peu de champagne donne beaucoup de courage. Elle courait, elle courait. Il lui semblait courir après son cœur. « C'est moi, mon oncle. » « Vous voulez bien que je vous accompagne ?» Dandison prit son bras sans répondre. Peut-être qu'il n'aurait su, tant cette petite décidément le troublait de son jeune amour, comme aussi de son jeune corps. Dardisson était vicieux et sentimental comme sont d'ordinaire les hommes d'aujourd'hui. Tandis qu'il se désaltérait à cette source divine qu'est pour un homme mûr la tendresse d'une vierge, pendant ce temps, il interrogeait malgré lui la palpitation de sa gorge et dans les chancrures en carré du corsage les méandres d'une veine couleur de ciel. Ne songeant plus l'un et l'autre à leur chemin, ni à monsieur la Mortagne, il s'était enfoncé dans l'île au lieu de gagner la berge. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent au bord d'un cirque qu'abritaient en contre-haut des tilleuls encore. La descente était assez brusque, mais grâce à l'appui de Sir Everard, qu'elle ne ménagea point, Madon parvint sans faux pas au fond de ce gouffre charmant où régnait un tertre de gazon du côté de l'ombre. La jeune fille s'y laissa choir, Dandison auprès d'elle, tous deux en silence. Cependant, le temps s'était mis à l'orage et le ciel, peu à peu, prenait l'apparence d'une voûte de métal. L'éclat fantomatique en pénétrait jusque dessous les tilleuls dont l'odeur saturait l'air chaud. Sous cet étrange reflet, Dandison regardait une nouvelle Madon. Les reflets cassants de sa jupe, un peu de vert pâle à sa ceinture, à son chapeau, et cette lumière de mirage, tout cela faisait d'elle une chose éclatante et nuancée, comme une fleur de serre. À qui ressemblait-elle donc ainsi? Ses regards pénétrèrent plus avant pour se rappeler. Mais de les sentir errer ainsi parmi son corps, comme si ce fussent des abeilles et elle-même toute nue, Madon eut honte et devint rose, plus rose qu'à l'ombre d'un rosier. « À quoi pensez-vous, mon oncle ?» demanda la jeune fille, que l'orage en approchant commençait d'inquiéter. Dardisson sortit de son rêve. « Oh, je pensais, dit-il à ses œillets, que tu m'as refusé l'autre jour. » Et laisser prendre. Je n'en ai pas aujourd'hui. Ils étaient pareils à ta bouche. Mais vous ne voudriez pas, je pense. Ah, un éclair, avez-vous vu? Est-ce que tu me la donnerais, Madon? Madon se rapprocha un peu et, l'attendant vers lui, embrassez-moi, dit-elle. Dardisson était en train d'obéir, quand un nouvel éclair, accompagné cette fois du plus éclatant tonnerre, jeta la petite entre ses bras. Et lui, qui la sentait frémissante du double émoi de la peur et de la tendresse, s'était repris à la caresser. Cependant, les éclairs se multipliaient dans un ciel couleur d'encre. « Oh, j'ai peur !» soupirait Mademoiselle Mamoury. « Serrez-moi bien, j'ai peur, mon oncle, je vous aime. »« Et pourtant, murmura-t-il, tu ne m'as donné qu'un œillet aujourd'hui. » La jeune fille, sans répondre, tourna vers Sir Everard l'ombre de ses yeux, comme pour lui demander grâce. Mais quoi, était-il en l'état de la faire à une aussi touchante victime, ou mettre encore de ses mains? Et peut-être avait-il violé déjà plus d'un mystère, quand tout à coup, derrière eux, plus haut que les grondements de l'orage, retentit une clameur nombreuse. Madon bondit sur ses pieds, Sir Everard se retourna à demi et tous deux aperçurent, rangés au bord du cirque, la foule de leurs compagnons qui depuis longtemps sans doute les épiaient. Madame Dérèse, un bras à la taille de Marie-Louise, feignait de les juger fort comiques, tandis que l'Américain, qu'on avait retrouvé à la longue, observait un silence stupide. Mais Monsieur Lamortagne, récupéré lui aussi, riait de profil avec un œil lugubre. Et son rire triste et sec ressemblait à celui des pintades. Quant aux petites amies, elles piaillaient toutes et semblaient si hors d'elles que les collégiens hardis resserraient leurs approches. Peu à peu pourtant, le silence se fit. Alors, Sir Everard, non sans un peu d'accent anglais, comme il lui en venait toujours avec la colère, « Très heureux, dit-il, de vous rencontrer. Et laissez-moi à cette occasion vous présenter Lady Dandison. » À ce coup, les rieuses auraient dû passer du côté de Mademoiselle Mamoury. Mais au contraire, sur leur visage, à presque toutes, perçait le dépit de voir faire un beau mariage à une autre. Or, Sir Everard était très riche. « Moi, je le trouve vieux, » murmura pourtant Rondeline. Franqueline aurait peut-être répondu quelque chose si un effroyable coup de tonnerre n'avait en ce moment retenti. Du même coup, les nuages crevèrent. « Oh, il ne faut pas rester sous les arbres !» cria Madame Dérès. Là-dessus, chacun de se sauver dans les prairies en désordre. Les uns criaient, l'Américain riait d'une façon inintelligente, Flore se signait, et bientôt tout le monde fut mouillé jusqu'aux os. Ainsi, toute cette jeunesse fort retroussée courait vers les barques. Andrinette coiffée de sa robe rose, Mariadour qui, pareil à Jason, avait laissé un de ses souliers dans une flaque, l'Américain dont la plante spatuleuse éclaboussant le voisinage, et Madon, au bras de son oncle, est toute rouge de honte, de plaisir, de courir. Mais c'est la jeune cubaine, surtout, qu'il fallait voir, avec sa robe d'or qui lui plaquait en haut des jambes. Jamais on ne connut mieux la parcimonie d'une mère qui la laissait pour tout dessous, réduite à sa naturelle beauté. N'importe, et dans sa fuite encore, elle restait belle. Tandis qu'au hasard de ses charmes trahis, çà et là, l'étoffe se teintait de ce même rose qui parle les pommes mûrissantes. Oui, je le jure, tel qu'on s'imagine Diane au beau genou, en avant de ce chien ou Tétis qui jaillit d'une mer écumeuse, Mademoiselle de Saavedra, déesse naturellement, se hâtait vers la plage, insoucieuse que toutes on l'a pu voir. Et ce jour-là, certes, à peine un peu qu'elle demeura-t-il secret, tant on eût dit, découverte de la sorte jusqu'en ses moindres détours, que ce fut l'ouragan lui-même qui la sculptait nue et vivante. Chapitre 4. Les écoles du vieillard. Depuis que le baron Marius le Gris avait appris aux pieds de Jacqueline la douceur de ne plus savoir dire non, cette petite fille lui faisait goûter tous les dégoûts d'un bonheur en train de tourner à l'aigre. Une terrible conquête qu'il avait faite là, le vieux agioteur, et dont tout le succès s'achevait en sa propre servitude. Ah, tout n'était pas rose dans Jacqueline, quoi qu'on en pût chez elle découvrir beaucoup. L'autre jour encore, devant ce bel âtre de Rose Dascou, son professeur de piano, ne l'avait-elle pas fait mettre à quatre pattes, et non pas même pour le chevaucher, à l'instar de la maîtresse de stagirite, mais bien pour qu'il cherchât sous les meubles une bague qu'elle prétendait avoir perdue. Et tandis qu'il cognait contre le pied des tables ou des consoles, sa tête rouge et blanche, peut-être que se donnait des baisers, et qu'on s'embrassa ainsi sur son dos, comme dans Bocasse, Marius se sentait maigrir le cœur à de ce soupçon. Néanmoins, il n'osait pas regarder en arrière. Quand il se retourna enfin, après avoir toussé, en se disant « Mais ne te trouve rien, mon chéri » n'était-ce pas un sourire qu'il surprit sur le visage du joli pianiste, de ce croque-note que Jacqueline l'obligeait à traiter avec politesse, alors qu'il aurait tant aimé mieux le combler et le coup de canne. « Ah !» songeait-il en se relevant avec peine. « Ah, le lotard, le slovaque, le bougre !» Ce n'est pas du premier jour que Mademoiselle Lamortagne avait atteint ce comble d'impudence. Mais qu'il était loin, ce premier jour, où pour une fois échappé au baron, et plus endolorie encore que la fleur du pourpier foulée par un rustre. Elle tremblait au bras de sa petite sœur, du péril passé, des périls à venir. Ils étaient venus, en effet, et Jacqueline, devenue bientôt la maîtresse du financier, son père avait tant d'ennuis, des ennuis d'argent. Monsieur Legris connut à cette époque une espèce de lune de miel, surtout lorsqu'il eut relégué les La Montagne loin de Paris. Ce qu'il prenait, mais à tort, pour de l'habileté, il commit d'autres fautes. Jacqueline, qui était presque une enfante encore, avec cela pas très grande pour son âge, le baron imagina, pour en rehausser la verdeur, de lui donner une institutrice anglaise, espèce de louve qui avait des dents à croquer deux chaperons rouges. Son élève eut vite fait de la séduire, réduire aux fonctions de femme de chambre, ou même pis. Elle y fit merveille, servit les grincheuses comme elle était, pudibonde avec cela, ce qui doublait chez Jacqueline le plaisir de se tenir mal en sa présence, voire indécemment. Mais elle en usa surtout pour jouer à la maîtresse de maison et aiguiser en quelque sorte son jeune pouvoir, comme un canari se sert d'un os de sèche. Le baron, ayant voulu mettre tard, y objecter, Mademoiselle Lamortagne déclara que, si on la poussait à bout, elle ajouterait à la livrée un nègre avec un oiseau vert. N'importe quel oiseau vert, mais avec un nègre. Il sera svelte, continua-t-elle, robuste et très beau, comme le roi mage Melchior. Et puis il y aura un nain, en velours jaune, avec un kodak en bandoulière. Et puis il y aura un homme réclame, avec un monocle et une chemise sale, qui criera quand nous descendrons devant les restaurants « À 11 heures au plus bas, le baron Mario dans son répertoire !» Et puis il y aura un spahi sénégalais. Et puis il y aura... Le baron Mario prit la fuite. Et s'il avait eu que le spahi au moins n'était pas tout à fait un mythe, Jacqueline, en ayant chez le concierge remarqué un qui demeurait dans la maison, elle savait même son nom, Guillaume de Crisset, et qu'il avait naguère été lié avec sa vieille amie, Madame Dérèse. Mais tout cela n'était encore qu'un début timide. À 2 mois de là, Jacqueline parlait argot, avait des correspondances à la poste restante, se faisait caresser par son coiffeur. 6 mois après, c'était le naufrage. C'était M. Legris écrivant à sa pseudo-belle-mère « Madame et chère amie, que ne puis-je vous donner un nom plus doux, qui, en homologuant pour ainsi dire les sentiments tout filiaux que j'éprouve envers vous, donnerait un caractère non moins officiel à ce que je nourris pour Jacqueline et qu'il me faut bien réduire à une tendresse presque paternelle. Mais à quoi bon caresser cet impossible rêve? Vous savez aussi bien que moi la maudite existence qui s'y oppose, et que la baronne de pure rancune n'a jamais cessé de s'opposer à notre divorce. À défaut donc de cette autorité que la loi me refuse sur votre fille, et que son cœur, hélas, ne paraît point prêt de me laisser prendre, il me faut bien recourir à la vôtre. Vous l'avouerai-je, j'en suis presque à regretter le temps jadis. Votre logis de la place Saint-Sulpice, où je vous la voyais reprendre si fermement au moindre de ses caprices, ou des vôtres, que sa plainte en accommodait le voisinage. Déjà, on la devinait indomptable, capricieuse, comme un cabri, et tout entière à l'audace de ses rêves. Vous rappelez-vous ce soir qu'elle sanglotait dans un coin? Et comme je n'ai vu qu'elle sanglotait sans une larme. Voyez, me dites-vous alors, toute cette rage qu'elle a, mais de vrai chagrin point, et quant à la vergogne, c'est une langouste, il faudrait la faire cuire pour qu'elle rougît. Hélas, je ne sais pas la cuisine. Quoique jamais peut-être il n'y ait eu si belle occasion de lui faire monter au joug deux doigts de honte. Ah, que n'êtes-vous ici, madame, pour la remettre à son devoir, et lui rappeler tout ce que ce mot devrait envelopper pour elle d'obligation à mon égard? Non, certes, que je me veuille targuer des services rendus, de ceux que je puis rendre encore. Je ne parle ici que des naturelles obligations d'une enfant vers un homme mûr. Vous savez, madame, mieux que personne, si mes intentions furent droites, et n'avez point eu égard là-dessus aux injustes préventions de Monsieur Lamortagne. Mais c'est pour cela même que les ridicules d'un père me suffisent. Puisque c'est le rôle de géronte que je tiens, j'ai droit de n'être pas traité en sganarelle par-dessus le marché. Quelle figure me fait-elle-t-il faire l'autre matin, ayant pénétré à l'improviste chez elle, d'y découvrir à son côté ce monsieur de Crisseg, qu'elle connaît je ne sais comment, vous aussi je crois, en spahi bien sûr, avec sa chéchia, son boubou, son langouti, tous ces je ne sais quoi et autres hardes de défroque qui devraient être interdits de porter en France. Et pensez-vous qu'ils se troublèrent? Nullement. Ce lansquenet lui-même avait l'air de me mettre à l'aise. Il se mit à phraser. Mademoiselle, me dit-il, lui avait fait l'honneur de désirer qu'il l'instruisît aux choses d'Afrique. Et il ajouta, oriant d'un air bête, « Cossas de Africa ». Quoi, Cossas de Africa, qu'est-ce que ça veut dire, je vous le demande? Et Jacqueline, qui riait aussi. Enfin, il daigna prendre la porte. Mais il est revenu, je le sais, j'en suis sûr, je le parierai. Et avec lui, le coiffeur, et avec le coiffeur, Rosedascu, le pianiste, et qui sait plus? Mais j'ai quelques répugnances à vous en écrire plus long là-dessus. À vous sur qui seul je compte pour remettre un peu d'ordre chez moi, et en moi, s'il se pouvait. En attendant, cher ami, etc., etc., Baron Legris. Marius n'exagérait pas, et au contraire, presque aussitôt attelé, si on peut dire, Jacqueline lui avait gagné à la main, et de moins en moins elle sentait le morse. C'est que M. Legris ne l'avait pas épousée avec plus de douceur que tout autre épouseux l'aurait fait. L'ayant payé à qui de droit, il en avait usé selon l'usage, malgré sa douleur et son épouvante. Quoi de plus ordinaire dans le mariage ou à côté, depuis qu'il y a des hommes et qui dépensent? Ne s'achètent-ils pas point de l'un à l'autre leurs filles à de variables taux? Cela se nomme le tiratou, et dans ce beau code en pierre noire que le roi Hammurabi a légué au musée du Louvre. Mais il arrive que les filles des hommes se vengent. Jacqueline y faisait bien ce qu'elle pouvait. Et le meilleur moyen, lui en ayant paru de tromper beaucoup M. Legris en le rendant ridicule, elle le trompait beaucoup et le rendait ridicule. Toutefois, n'y goûtant encore aucun plaisir, en dehors de la vengeance, elle craignait de ne le point tromper parfaitement. Au-delà de cette corvée qui la laissait toute fourmilleuse, mais voilà tout, elle devinait quelque chose qu'on appelle la volupté, quelque chose qui a fait verser les plus belles larmes sous le ciel. Elle avait mis tout son cœur à la poursuivre jusqu'aux bras déjà de plus d'un jeune homme, mais en vain. C'est dans une espèce de mariage blanc qu'elle connut tout à tour le spahi Guillaume de Crisset et Rosedascu, le pianiste, et un cousin tout rouge de sa gouvernante anglaise, et peut-être d'autres encore. Tout cela en 6 mois. Cette bonne amie d'un afrite dont parlent les mille et une nuits, qui se couchait au moindre passant, la surpassait à peine par l'improviste de ses caprices. et au moins y goûtait-elle quelque plaisir, pourtant qu'un homme en puisse être la cause après un géant. Ah, que l'homme est petit, aussi petit que le monde. Le mariage de Mademoiselle Madon Mamoury, une de ses camarades d'enfance, avec un riche Anglais, Sir Everard Dandison, exaspéra encore les rancunes de Jacqueline. La voilà Milady, songeait-elle. Milady Madden, est-ce que ça ne sonne pas chaud? Moi aussi je serais baronne, sans cette vieille harpie qui ne veut ni croupir ni divorcer. Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire? Elle le chercha, elle le trouva. Et qui lui rapportait à Marius ce qu'elle avait trouvé? Oh, il s'en serait tenu les côtes. Comme l'ont dit deux auteurs célèbres, il faut rire avant d'être heureux, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est à ce moment que la lettre du baron tomba au milieu du paisible bonheur de la Mortagne, comme une pierre dans une mare grenouille. Le père de Jacqueline, d'ailleurs, et sa sœur, en furent quittes pour quelques éclaboussures, Madame la Mortagne ayant gardé part de Verzel le plus gros du réquisitoire. Ce n'est qu'au curé de Larigot qu'elle s'en ouvrit, et encore avec les réserves qu'on devine. Cet ecclésiastique, dont le zèle était parfois indiscret, n'aurait pas demandé mieux peut-être, s'il avait pu quitter sa cure, que d'aller prêcher Jacqueline. Il se contenta d'en prier un prêtre arménien qu'il connaissait à Paris, personnage jadis fort poussé par l'annonciature. Sous la robe de laine blanche qu'il portait par de ses quels privilèges et son chapeau de feutre gris de perles à gland rouge, avec sa face de levantin demeurée jolie et rose, M. d'Artaxia était bien l'être qui convenait au repentir de Magdeleine souple, théâtral avec cela et du reste plus fin que profond, c'était l'homme des purifications hasardeuses. Et il en avait reçu le surnom de papier d'Arménie. Mais peut-être était-il inégal à la tâche un peu bien difficile dont on le chargeait aujourd'hui. Tel quel, l'abbé s'en fut sonné, place des États-Unis, au premier d'une vaste demeure chez le baron Marliot. C'est Jacqueline elle-même qui vint ouvrir, tout en s'entretenant avec son livrier russe. « Tiens, dit-elle, c'est pas Voltaire. Tu vois, c'est un curé en blanc. Monsieur l'abbé, si c'est à monsieur Legris que vous en avez, il est sorti, et tous les domestiques aussi, et Barbara aussi. Il ne reste que moi, avec Olgo, le chien du steppe. À bas, Olgo, à bas. Et l'oiseau, couleur prairie, voulez-vous le voir ?»« Mademoiselle, en vérité, je ne sais pas. » « Elle est un peu folle, se dit-il, mais bien gentille et pas fière avec ça. » Et il suivit à travers l'antichambre et un corridor, jusque dans une petite pièce sans doute dévolue à l'oiseau couleur prairie, meublée comme elle était de cages, auges, mangeoires, etc. Et d'oiseaux, il n'y avait point, mais on voyait par une fenêtre ouverte sur le square se balançait la cime des arbres. Maman, Beryl est parti, s'écria Jacqueline. Il faut le poursuivre. Venez, monsieur l'abbé. Et sans mettre le chapeau, entraînant par la main le prêtre trop surpris pour résister, déjà elle était dehors, fouillant les marronniers de l'œil. Monsieur d'Artaxia, tout droit dans sa robe blanche, lui aussi interrogeait le feuillage. De temps en temps, elle levait les bras au ciel. Ses cheveux s'étaient dénoués, roulant leurs boucles épaisses plus bas que ses reins. Et le stupide Olgo près d'elle, remuant la queue à deux ou trois. Ah, il faisait un spectacle! Enfin, elle aperçut Beryl en haut d'une branche, où cet oiseau, d'espèce d'ailleurs inconnue, semblait s'être assoupi. Ah, le voilà, monsieur l'abbé. Il faut aller le prendre. Mon Dieu, mademoiselle, dit l'abbé, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte combien ma robe me gênerait. Par exemple, dit Jacquet, mais non, il n'y a qu'à se la mettre entre les jambes. À la campagne, moi, je grimpe très bien comme ça, tenez. Elle s'apprêtait à pousser jusqu'en haut de l'arbre sa leçon de choses, quand l'abbé d'Artaxia la retint par le bras. Nous ne sommes pas à la campagne, dit-il, et peut-être trouverait-on dans l'entourage quelqu'un qui vous remplacerait. C'est qu'un peu de monde, cependant, s'était groupé autour d'eux. Trois ou quatre jeunes gentlemen, entre autres, qui revenaient de jouer au feu de beigne sur les fortifs, mais qui en avaient bien l'air. Quelqu'un de vous? Leur demanda M. d'Artaxia. Y aurait-il cherché cette bête verte pour 100 sous? Les hommes de sport se consultèrent. 100 sous, murmura l'un d'eux. Paraît que ça leur rapporte aux ratichons de refiler des mobinettes. Déjà que je les avais marre. S'agit pas de ça, dit un autre. Et plus haut. Moi je veux bien, ajouta-t-il, mon archevêque, mais est-ce qu'il va pas s'envoler la volaille? Non, dit Jacqueline, c'est une bête très bête, qui n'est pas d'ici et qui dort toujours. Tout le monde la prend, même son nègre, quoiqu'il l'aime pas. Quel nègre? Demanda l'abbé. Son porteur, donc. Que voudriez-vous qu'on fît d'un oiseau vert sans nègre? À ce moment, le grimpeur, qui avait atteint le sommet de l'arbre, ôta sa casquette et en coiffa Béryl, qui poussa un faible cri. Puis, le saisissant par les pattes comme un poulet, il redescendit toucher sa pièce. Et Jacqueline, déjà, qui avait repris l'oiseau, cherchait à grands cris à le faire embrasser par son chien. Béryl, Béryl, Olgo! Monsieur d'Artaxia commençait à s'impatienter. Peut-être, dit-il un peu sèchement, faudrait-il mieux ne pas rester ici tout le jour? Ah, oh, mon Dieu, vous êtes fâché! S'écria la jeune fille qui fit des yeux chagrins et tendres. Eh bien, rentrons. Mais Monsieur Legris n'est pas là? Ah, c'est donc à lui que vous avez affaire, reprit-elle en coulant sur le prêtre un regard candide couleur d'eau. Monsieur d'Artaxia baissa sans plus répondre ses paupières sinueuses et suivit encore jusque dans un boudoir héliotrope où il s'assit. Vous vous demandez peut-être, mademoiselle, commença-t-il, ce pourquoi je suis venu. Oh, mon Dieu, non, interrompit Jacqueline. Je n'ai fait que penser à cet oiseau. Mais me voici tout ouïe. Et de la main, elle rabattit ses oreilles, dont la conque était semblable à un coquillage. Je vous suis délégué par Madame la Mortagne. Le visage de la jeune fille s'assombrit. Ma mère, oh, et qu'est-ce qu'elle veut encore? Pardonnez-moi d'aller droit au but. Elle pense que peut-être vos égards envers l'homme respectable qui vous a recueilli. Recueilli, murmura Jacqueline, qui, pâle tout à cœur, rougissait peu à peu, telle qu'à l'aurore la neige d'un mont. L'abbé continua. Ne sont pas toujours ceux que requiert la décence. La décence? Siffla Mademoiselle la Mortagne, soudain debout et comme dardée vers le prêtre. Un instant, il pense à revoir, enfant arménien, quelqu'une de ces couleuvres qu'à la tombée du jour faisait jaillir au bord d'un chemin rose la molle approche de ses pieds nus dans la poussière. C'est maman qui parle de naissance ou le baron? D'ailleurs, ça se vaut. Ai-je rien fait, moi, que ce qu'ils ont voulu? À eux deux, ils m'ont formé. Et comment? Je ne vous demande pas de confidence, objecta l'abbé. Mais si maman vous envoie me chapitrer, il vaut mieux que vous sachiez les choses. Je suis sûr qu'elle vous a fait le boniment du vertueux tuteur et de la petite fille soumise. Soumise, c'est bien le mot. Monsieur d'Artaxia, ayant compris, salua avec un peu d'épouvante. Mais quel âge avez-vous donc ? Demanda-t-il. Mais il y a 2 ans et demi, je faisais ma première communion à Saint-Sulpice, en blanc. Et aujourd'hui, toujours en blanc, je fais la fête. Et je m'amuse, monsieur l'abbé, oh, je m'amuse, si vous saviez. Elle éclata de rire, mais presque aussitôt en sanglots. Et se laissant glisser sur le tapis, agenouillée comme à confesse, elle cacha dans la soutane blanche un visage brillant de larmes. Monsieur d'Artaxia, prêtre libre, ne fut point sans en ressentir de l'embarras. Cette nuque duvetée, elle aussi, ses reins, tout ce corps onduleux dont la tiédeur pénétrait jusqu'à lui, il allait se résoudre à repousser le péril trop aimable, au risque de paraître discourtois, quand on entendit battre des portes puis retentir des pas de l'autre côté. Jacqueline sauta sur ses pieds. Une expression singulière remplaçait sur son visage, sans qu'il en devînt plus joyeux, le chagrin de tout à l'heure. « C'est lui, dit-elle, et de mauvaise humeur, je pense. Mais tant mieux. Il y a un plat que je lui réchauffe depuis longtemps, et le plus drôle, c'est que la baronne est de moitié avec moi. » « Puisque vous êtes là, j'en vais profiter pour le lui servir, que vous puissiez tout redire à maman. » Et ouvrant la porte qui donnait sur le grand salon, « Papa, l'algio, continua-t-elle, vous pouvez entrer, il y a du monde. Et ne faites pas la tête, c'est de la part de votre mi-maman. » Monsieur Legris entra d'un air furieux à la fois et dompté, sous les yeux fixes de Jacqueline. Elle faisait ainsi songer à une dompteuse, une jolie dompteuse pour peau de tigre et autres descentes de lit. Quant au baron, en reconnaissant un prêtre, il se rasséréna quelque peu. Car il était voltairien, c'est vrai, et détestait l'infâme, mais il était amoureux, bien plus encore, et ce qu'il rêvait d'écraser avant tout, c'était les flirts de Jacqueline. Il aimait mieux se dire « flirt » qu'amant, et qu'il aurait aimé mieux encore, sans croire. Cependant, M. d'Artaxia s'était présenté lui-même. « Madame la Mortagne, expliqua-t-il, n'ayant reçu voilà longtemps aucune nouvelle de sa fille, ni de vous-même, monsieur le baron, m'a fait prier par monsieur le curé de Larigot de m'assurer s'il n'était arrivé mal ni à l'un ni à l'autre. » Le baron s'inclina en manière de rendre grâce. Jacqueline, qui au contraire d'une heure avant semblait tout accablée de nonchalance, à demi renversée dans sa bergère, regardait le banquier de son air le plus diabolique. Jacqueline, dit-il avec ce mélange d'irritation et de servilité qui lui était propre envers elle, « Jacqueline, tenez-vous !» Mademoiselle la Mortagne bâilla doucement derrière une main pointue où étincela le quintuple onyx de ses ongles et leva le genou un peu davantage. Monsieur d'Artaxia baissa les yeux. « D'ailleurs, dit-elle, tout ça c'est du battage. » Maman a envoyé l'abbé pour qu'il me flanque un savon. Pourquoi pas des claques? Et encore de lui peut-être que je me laisserai faire, car il paraît que je vous rends malheureux, papa. Marius murmura quelques paroles indécises, tristes lambeaux. Vous l'entendez, monsieur l'abbé, qui me proclame la plus dévouée des pupilles? Certes, mademoiselle, je... Monsieur d'Artaxia s'interrompit pour contempler, avec une surprise mal édifiée, mademoiselle la Mortagne, qui entre-temps avait sauté sur les genoux de son papa et le tenait embrassé. La journée était chaude, Jacqueline palpable, presque immédiate, sous cette pellicule de soie qui semblait faire tout son vêtement. On aurait pu voir alors M. Legris devenir rouge, très rouge, puis orangé à cause de sa bile. Ses cheveux courts et blancs avaient l'air en haut de sa tête d'un peu de givre épargné par le soleil d'automne sur un éclatant giraumon qui tout seul au fond du jardin éclate d'or et de cinabre. L'abbé, qui ne savait pas interposer des métaphores entre lui et le monde extérieur, pensa qu'on s'y tenait décidément aujourd'hui de façon malséante, et d'un air un peu froid se leva pour prendre congé. Avec quelque effort, le baron fit comme lui et reprit son calme, mais il était manifestement fatigué de l'esprit comme des sens. « Quoi, articula-t-il, vous ne partirez pas comme ça, monsieur l'abbé, sans causer ?» C'est cette petite qui m'a empêché d'être attentif envers vous autant que j'aurais dû. Aussi, mettez-vous à ma place. Le prêtre esquissa un geste de refus courtois. Jacqueline, d'un air résigné, s'était rassise. Je veux dire, continua le vieillard, que... Mais non, gémit-il tout à coup. Vous ne devinez pas ce que je veux dire, ni de quoi elle est capable. Le diable ne saurait comment la prendre. Elle ne me prenait pas, murmura la jeune fille. Et que fais-je donc ? Voilà 4 mois, oui, 4 mois, que je ne suis entré dans ta chambre. Oh, monsieur, je vous en prie, intervint l'abbé. Mais le baron ne semblait plus l'entendre. Encore, si elle me laissait à mon repos, peut-être me résoudrais-je à garder des distances qui vont m'être bientôt imposées par l'âge. Ses grosses lèvres se prirent à trembler sans plus rien dire. On entendait croître le bruit de sa respiration pareil à des sanglots qu'on étouffe. Bientôt, reprit Jacqueline, pourquoi pas dans 20 ans? Et à quel âge est-ce qu'on est-elle? « Oh, mademoiselle, en vérité, vous l'entendez, elle est impitoyable. Mais plus encore, oh, bien plus encore, quand elle s'assied sur mes genoux, me caresse, me flatte, et tout d'un coup me plante là, dans le vide, avec ma jeunesse un instant retrouvée. Elle me rendra gâteux, je vous dis, cria-t-il. Oh, monsieur, je vous en prie, répétait l'abbé. Mais vous ne connaissez pas ces choses-là, vous autres dans vos robes, ni ce que c'est de pleurer derrière un verrou, et elle, de l'entendre rire. » Monsieur Legris, s'étant caché le visage dans les mains, sanglotait faiblement. Tel, dit Homère, un source à l'eau noire. Monsieur d'Artaxia regarda Jacqueline. Elle semblait avoir oublié sa présence, et jetait au baron les regards d'une joie cruelle. « Elle n'a rien dans le cœur, » se dit-il. Par un naturel enchaînement, il songea au creux de son estomac et que l'heure de déjeuner, où il était d'ordinaire fort attentif, était passée depuis longtemps. Cela le fit bâiller. Mademoiselle la Mortagne se tourna vers lui. « Monsieur l'abbé, ne vous quittez pas encore, je vous prie. J'ai si peur que vous me jugiez mal à m'entendre que le baron. Vous allez voir s'il est injuste. » Et revenant au vieillard, elle lui posa la main sur l'épaule, ce qui le fit tressaillir. « Est-ce vrai ? » demanda-t-elle, « Papa Lagio ? « Ce que vous m'avez dit 1000 fois, que vous m'aimiez comme une fille. »« Tu le demandes ? Je ne sais pas ce que vous entendez par fille, mais moi je suis toute décidée à vous aimer comme un père, et je vais vous en donner la preuve. Monsieur Legris la regarda d'un air inquiet. Vous ne me refuserez pas? Reprit-elle en se caressant la joue contre la sienne. Mais quoi encore, Kaline? Balbutia-t-il, la lèvre pendante. Bien, voilà, puisque vous ne voulez pas m'épouser, mais tu sais bien qu'il y a ma femme. Votre femme? Oh, pour une fois, je marche avec. J'ai été la voir, moi, votre femme. Tu as été chez la baronne? J'y ai été, et on ne m'a rien fait. Nous sommes même tombés d'accord d'une combinaison pour qu'on ne se moque plus d'elle, et pour que la Dodison ne m'achète pas, moi. Quelle combinaison? Ah, dites oui d'abord. Près de lui, d'un air de prière, Jacqueline se déroula en quelque sorte, comme pour l'embrasser, tous de ses jeunes membres. Se déroula aussi mollement qu'une corde de soie. Oui, murmura alors le vieillard. L'enfant d'un bond gagna la porte et disparut en jetant ces mots. Je veux que vous m'adoptiez. Il y eut un instant de stupeur, comme après que vient de tomber la foudre. Monsieur Legris étouffait ses larmes. L'abbé, lui, se sentait devenu en pierre, outre que le jeûne lui ôtait beaucoup de son énergie. Et ils se regardaient tous deux sans rien dire, aussi pantois que le brave Crillon.